15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Il est à mes côtés tous les jours, lui aussi, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la neurophysiologie des contes de fées. Ça ne vous dit rien peut-être comme ça, mais notre invité est neurologue et il a pris les contes de fées à la lettre pour mener l'enquête, pour voir si derrière la Belle au bois dormant, qui plonge durablement dans le sommeil, ou encore Simplet, le nain qui rit tout le temps dans le conte Blanche-Neige, en fait il n'y aurait pas de véritables troubles neurologiques. Vous allez voir, ce sera passionnant. Notre invité, ce sera donc le neurologue Laurent Vercueil. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une étude qui a eu pour but d'améliorer la performance diagnostique des cancers de l'ovaire. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va faire un point sur le microbiote, notre flore intestinale, avec une expérience assez fascinante à travers le monde. Des chercheurs du MIT vont récupérer des échantillons de ce microbiote chez des peuples encore épargnés par l'industrialisation. On va partir au Sénégal pour une fois dans son rendez-vous, vous allez voir. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de ces pensées parasites qui peuvent parfois nous perturber pendant les rapports sexuels.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Vincent, 39 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle parce que j'ai des symptômes grippaux et j'ai vu mon généraliste et il m'a dit que c'était pas une grippe mais un virus. Parce que je trouvais que ça se ressemblait et je me demandais s'il y avait un test pour savoir voilà, si c'est l'un ou l'autre. Je sais pas si vraiment ça a un intérêt, mais voilà, merci.
Bon, la grippe, Jimmy, c'est d'actualité. Hein. J'imagine qu'en consultation, en ce moment, ça se bouscule au portillon.
Oui, c'est la période et c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a de la grippe, mais il y a aussi plein d'autres virus respiratoires qui miment des trucs qui ressemblent à la grippe. Et je suis quand même assez étonné parce que souvent, les patients ont le bon diagnostic. Quand ils me disent qu'ils ont la grippe, et bien finalement, ils sont souvent dans le mille, ils ont raison. Alors que parfois, ils peuvent se tromper. Mais là, pour la grippe, ils arrivent à très bien reconnaître les symptômes et ils sont plutôt performants.
Bon, bah c'est pas mal. Mais bon, par contre, je crois quand même que pour les patients qui sont moins performants ou vous, quand vous êtes moins performant, peut-être, quand vous prescrivez, vous pouvez prescrire un test qui permet de confirmer ce diagnostic de grippe.
Hein. Exactement. On peut faire un petit prélèvement nasal. Ça se fait au laboratoire. C'est strictement indolore.
Labo d'analyse classique. Hein.
Exactement, à côté de chez vous, sans rendez-vous. On peut le faire aux enfants et aussi aux adultes. On met un petit écouvillon dans le nez.
Un écouvillon, c'est un petit coton-tige. Hein, voilà.
C'est un terme un peu
vous vouliez faire chic.
Voilà, c'est le coton-tige qu'on met dans le nez et qui permet de détecter la grippe, qu'elle soit A ou B. On détecte certaines souches et ça nous permet de faire un diagnostic de certitude, car dans l'immense majorité des cas, le diagnostic, il est clinique.
Et l'intérêt de savoir que c'est la grippe, ça sert à quoi pour vous, par
Alors, exemple parfois, on a un autre diagnostic. On se demande pourquoi est-ce que l'enfant a une fièvre prolongée. Est-ce que ce serait simplement la grippe qui donne 5 à 7 jours de fièvre ou s'il y aurait une complication? Et surtout, on fait le test de grippe dans des populations où on sait que la grippe va être compliquée et entraîner des complications, notamment chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, car à ce moment-là, on peut prescrire un traitement antiviral qu'on appelle le Tamiflu, qui permet de réduire l'intensité des symptômes.
S'il est pris très tôt.
Très tôt, et le nombre de jours où on a la grippe. Donc c'est un but diagnostique et aussi un petit peu thérapeutique.
Bon, et justement, il existe aussi un autre test qui permettrait d'ailleurs de désengorger un peu les urgences en cette période d'épidémie. C'est un automate de diagnostic moléculaire de la grippe. Les explications sur ce test avec le docteur Jean-Claude Nguyen, microbiologiste à l'hôpital Saint-Joseph à Paris.
Une personne qui arrive à l'hôpital, elle est bien évidemment évaluée par les urgentistes. À ce moment-là, on peut lui proposer un test. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de récupérer des sécrétions au niveau nasal de manière à objectiver la présence du virus qui va être réalisé donc dans le box de consultation et qui va, d'une certaine manière, permettre au médecin qui prend en charge le patient de savoir dans les 15 minutes si le patient est porteur du virus de la grippe ou pas. Pour la majorité des patients qui ont une simple grippe qui est très bien supportée, bien c'est la possibilité d'avoir un diagnostic rapide et surtout la possibilité d'un retour rapide à domicile en évitant le risque de transmission et également éviter des examens inutiles.
Voilà donc une solution innovante pour dépister rapidement la grippe et surtout gagner du temps dans les établissements hospitaliers. Donc on va passer maintenant à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Marie, 36 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Ma mère a un cancer du sein. Du coup j'aimerais savoir est-ce que j'ai un risque d'en avoir un et comment savoir si je suis à risque génétique de cancer. Merci pour votre réponse, bonne émission.
Merci Marie pour votre question. Alors pour vous répondre, ça tombe bien, on avait mardi un grand spécialiste de la génétique des cancers sur le plateau. On a donc posé la question de Marie au professeur Axel Kahn, qui est aussi le président de la Ligue contre le cancer. On écoute sa réponse.
Alors s'il n'y a qu'un seul cancer du sein dans la famille, sans doute il n'y a pas de cancers familiaux. 10% des cancers du sein chez les femmes ont une base génétique que l'on connaît très bien. Mais quand il y a des mutations de ces gènes, eh bien il y a une histoire de plusieurs cancers dans la famille en règle générale. Tous les cancers sont des maladies génétiques le plus souvent acquises de la cellule. 5% des cancers sont héréditaires. Héréditaire, ça ne veut pas dire génétique. Je veux dire qu'il n'y a pas de cancer s'il n'y a pas de mutation de gènes de la cellule. Et ce sont ces mutations de gènes de la cellule qui engagent la cellule dans la voie de la cancérisation et de la progression tumorale. Donc 100% des cancers ont une base génétique, mais simplement 5% sont héréditaires. Sinon, ce sont des mutations acquises, ce sont des maladies génétiques acquises de la cellule.
Voilà donc pour la réponse à votre question, Marie. Alors si vous aussi, comme Marie, vous voulez nous laisser vos questions santé-bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du dépistage du cancer de l'ovaire qui peut s'améliorer. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le neurologue Laurent Vercueil. Avec lui, on va vous faire rêver, replonger peut-être un petit peu en enfance. On va décortiquer des contes de fées ou même un personnage d'Harry Potter. Vous allez voir que derrière ce monde magique se cachent peut-être de vraies pathologies neurologiques. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude européenne coordonnée par des Français dans le but d'améliorer la performance diagnostique des cancers de l'ovaire. Mais on a vraiment du mal à faire ce diagnostic de cancer de l'ovaire ?
Oui, le problème, c'est que le cancer de l'ovaire, alors c'est un cancer qui est rare, c'est environ 5000 cas par an en France, en tout cas en 2018, mais qui est associé à une mortalité très élevée, car souvent, on découvre cette maladie à un stade tardif, d'autant plus que les signes cliniques d'un cancer de l'ovaire sont peu spécifiques. On sait que dépister cette maladie n'a pas été très efficace et que bien souvent, on découvre des kystes ovariens à une échographie et un kyste qui est souvent plus ou moins normal. Et on sait que dans 25% des cas, il est impossible de déterminer formellement à l'échographie si ce kyste est très suspect ou si finalement il faut l'adresser ou pas à un spécialiste vers un oncologue qui va faire un bilan et parfois une chirurgie de ce kyste, parfois à tort et donc responsable d'une morbidité importante.
Quelle est donc l'étude dont vous voulez nous parler pour améliorer tout ça ?
Alors c'est une étude multicentrique, donc c'est dans 15 centres en Europe menée par le professeur Isabelle Thomasin-Nagara qui travaille à l'hôpital Tenon et qui a évalué chez 1340 femmes qui ont à l'échographie une masse suspecte ovarienne complexe, on a décidé de leur faire une IRM. Et on s'est demandé si cette IRM pouvait prédire de façon certaine une tumeur bénigne ou maligne. Est-ce qu'on peut les classer plus facilement à l'IRM ? Parce qu'à l'échographie, elles ont l'air suspectes, mais on n'est pas très sûr. On a réussi à avoir 5 catégories de scores de malignité des masses. Le score 2, 1 ou 2 est très faible. Vous avez 0,3% de risque d'avoir une cancer maligne. À l'inverse, lorsque vous avez un score classé numéro 5, le score maximum, vous avez 90% de risque d'avoir une lésion invasive maligne et par conséquent, vous devez avoir un bilan préopératoire important et être orienté vers un chirurgien et un centre spécialisé.
Une fois qu'on sait tout ça, Jimmy, c'est quoi les perspectives du coup ?
Comme on sait qu'on peut prédire si un cancer, si une masse ovarienne peut être cancéreuse ou pas, l'idée c'est de se dire, avec une nouvelle étude, c'est la PHP qui fait ça, est-ce qu'on pourrait
éviter... PHP, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris.
Exactement, toujours avec le professeur Isabelle Thomas-Sanagara. Ils se sont demandé si on pouvait peut-être éviter certaines chirurgies et finalement faire moins de bilans préopératoires et opératoires à des patientes, puisqu'on va les inquiéter, on va les opérer à tort et parfois on a des masses qui ne sont pas des masses malignes. Donc le but, c'est d'éviter des chirurgies chez les femmes et au contraire d'aller un petit peu plus vite quand on est sûr qu'il s'agit d'un cancer.
C'est un gros enjeu effectivement pour les femmes d'améliorer tout ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même pour celles qui ne le sauraient pas, et puis parce que c'est pas si bien connu que ça cette maladie, les signes qui peuvent faire penser à un cancer de l'ovaire quand, malgré tout, est-ce qu'il y en a quelques-uns ?
Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est un cancer qui est un peu sournois, il est silencieux, il ne parle pas jusqu'à un stade avancé, il touche plutôt les femmes qui ont plus de 45 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de test diagnostique pour les dépister de façon formelle. le frottis ne sert strictement à rien dans le cadre de l'ovaire. Et puis, les symptômes, ils sont vraiment peu spécifiques. Donc, ça peut aller d'un simple ballonnement, une sensation de pesanteur,
oui, juste ça.
L'augmentation du volume abdominal, quelques saignements, des troubles digestifs un peu frustres.
Quoi qu'il en soit, on consulte.
On consulte, allez voir votre gynécologue et au moindre doute, on fait une échographie de contrôle à titre de dépistage.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Laurent Vercueil. Il est neurologue au CHU Grenoble-Alpes et puis chercheur à l'INSERM. Il est aussi et surtout l'auteur du livre La Belle au Bois Dormant. Non, La Belle au Bois Dort-elle vraiment ? Neurophysiologie des contes de fées aux éditions Humaine Science.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Vercueil.
Bonjour Mélanie.
Alors les contes de fées, ça nous parle à tous. Hein. Enfin moi en tout cas particulièrement, je ne sais pas vous Jimmy, on a tous rêvé sur La Belle au Bois Dormant. Vous avez vu vous aussi tous les Disney notamment.
Ah oui, Peter Pan,
voilà, tout ça, tous ces héros qui nous ont fait rêver. Plus récemment, le monde d'Harry Potter. Vous m'aviez dit Jimmy que vous adoriez aussi, même si c'est vraiment c'est votre génération.
Non mais je les ai lus, non mais je ne suis pas si vieux que ça Mélanie.
Bon d'accord, ok. En tout cas, Harry Potter fait jouer l'imagination de beaucoup d'enfants aujourd'hui. Vous docteur, depuis combien de temps vous vous intéressez à la neurophysiologie des contes de fées?
Oh, ça fait déjà un petit moment. En fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, je suis parti de deux constats. Le premier, c'est que les maladies, les troubles neurologiques que j'encontre, ils sont pour la plupart pas récents. Ils existent depuis la nuit des temps. La nuit des temps, comme les contes dont on parle. Et la deuxième constat, deuxième constat qu'on peut faire, que tout un chacun peut comprendre, c'est le fait que l'explication neurologique de ces troubles, elle est récente par contre.
Donc c'est
donc,
ça.
Il y a une époque où des manifestations bizarres, un peu étonnantes, déroutantes, pouvaient avoir une autre explication que celle à laquelle on pense depuis, mettons, 200, 300 ans, du moment que la clinique est devenue quelque chose de très répandu et de très compréhensible.
Jimmy ?
Et du coup, vous avez relu tous les contes pour enfants. Vous avez fait
alors,
ce travail.
Je suis plongé dans une littérature qui est très sympa à lire quand même.
C'est pas désagréable, effectivement,
les contes de Grimm, moi je recommande vos auditeurs. C'est très chouette à relire.
Parce que...
Et puis aussi, en gros, tout ce qui va tourner autour de ce monde du merveilleux, avec l'idée que le merveilleux, quelque part derrière, ça peut cacher du vrai. Ça peut cacher une réalité qui a existé, mais qui avait à l'époque une autre explication. Mmh. Je vais prendre un exemple. Un trouble du langage. En neurologie, on appelle ça une aphasie.
Hein, vous dites ça parce que j'ai bafouillé tout à l'heure, je suis sûr. Me regardez en disant trouble du langage.
Si tout d'un coup, devant vous, je me mets à plan festin, tu me prends.
Oui, je préférais que vous parliez mieux, mais.
Ça, au point de vue neurologique, c'est une aphasie. Une aphasie très particulière parce qu'en fait, ce que je dis est incompréhensible.
Oui.
Et en même temps, lorsque je le dis, je ne suis pas en train de m'arrêter en me disant excusez-moi, je bafouille.
Non, vous y mettez le ton et tout. En plus, on
dirait. Je mets le ton, je suis assez convaincu de ce que je dis et je continue. Je trempe festin, tu me prends. Aujourd'hui, vous vous dites, oh là là, mon invité a un problème de santé, il faut que j'appelle le SAMU,
c'est
un AVC.
J'hésite, mais j'ai Jimmy sur le plateau, donc je ne m'inquiète pas trop, il a quand même une formation d'urgentiste.
Mais placez-vous 500 ans en arrière, quelqu'un qui parle comme ça, qui ne s'arrête pas, qui semble croire à ce qu'il dit comme étant un moyen de communiquer quelque chose, on va se dire, ce sujet, il parle en langue. Parler en langue, ça s'appelle la glossolalie, ça fait partie des critères du rituel romain de possession. Ça veut dire que, par définition, je parle dans une langue qui n'est comprise par personne.
Ah ouais.
C'est hyper grave. Comprenez.
Et vous êtes surtout focalisé sur les, parce que vous êtes neurologue, sur les problèmes neurologiques, là dans ce bouquin, pas que ça, c'est-à-dire. Mais...
Voilà, moi j'ai pris mon œil de neurologue pour regarder ça. En même temps, si vous voulez, les troubles neurologiques, c'est quand même ceux qui atteignent la capacité qu'on a d'être en relation avec le monde. C'est-à-dire d'interagir avec les autres, mais aussi de comprendre les messages qui nous viennent de l'environnement, etc. Et donc tout ça, ça va retentir beaucoup sur le comportement.
Merci docteur Vercueil, bien sûr on ne fait que commencer cet entretien qui s'annonce passionnant, surtout ne vous envolez pas comme par magie, vous restez avec nous. Dans quelques minutes on va commencer par un conte de fées que vous connaissez tous, La Belle au Bois Dormant, qui en dit en fait beaucoup sur les maladies du sommeil plus ou moins fréquentes. Il existe même un vrai syndrome qui porte son nom, on en parle dans quelques minutes, mais d'abord un peu de musique. On écoute le groupe LSD et leur titre Thunderclouds.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Laurent Vercueil. Il est neurologue au CHU Grenoble-Alpes et il est aussi l'auteur du livre « La Belle au Bois Dort-elle vraiment ? Neurophysiologie des contes de fées » aux éditions Humaine Science. Justement, docteur Vercueil, on va commencer par elle, par La Belle au Bois Dormant. Avec vous, on va décortiquer ce conte de fées pour voir quelle vérité scientifique se cache derrière. On écoute d'abord un petit extrait.
Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra.
Oh non !
Au Paris,
Donc c'est maléfique, la méchante sorcière qui jette le sort à la princesse donc, de la Belle au bois dormant.
Heureusement, il y a une autre fée qui arrive et qui va atténuer le sort, voilà. Puisqu'elle ne va pas mourir,
c'est ça.
Mais elle dormira 100 ans.
Et alors justement, c'est ça qui nous intéresse. De quoi elle est atteinte, cette princesse du conte de Perrault là?
En fait, pour ça, il faut faire une analyse clinique. C'est-à-dire qu'on reprend toute l'histoire et on analyse avec l'œil neurologique en se disant, bon, ok, c'est une adolescente qui a une enfance pépère, visiblement.
Ouais, ça va, princesse.
Plutôt très protégée, parce que en fait, le roi, comme il est averti du sort, il va exclure tous les fuseaux de l'entourage et normalement, il n'y a pas de fuseaux nulle part. Mais voilà que vers 15-16 ans, et dans pas mal de fixations du conte, on mentionne l'âge de 15-16 ans, donc c'est vraiment une ado. Elle découvre dans une comble, etc., une petite vieille qui n'était pas au courant et qui a gardé son fuseau, et elle se pique. Et lorsqu'elle se pique, elle tombe endormie très très profondément, très brutalement, durablement.
Ça, c'est juste les ados qui vivent de l'hypersomnie. On dit tous les ados dorment beaucoup, donc c'est juste ça?
Non. Alors, à mon avis, ça va un peu plus loin que
ça. Parce qu'elle dort longtemps.
Donc, on reprend une ado jeune, pas d'antécédents, qui va bien, qui tout d'un coup présente un endormissement brutal à l'occasion soit d'une petite douleur, soit d'une émotion, parce que peut-être aussi l'émotion. Tout d'un coup, elle réalise, mince, le fuseau, je me pique.
C'était interdit.
C'était interdit, etc. Donc, émotion, endormissement brutal. Endormissement, en tout cas, apparence d'endormissement. Mais en fait, en neurologie, le docteur House, notre maître à tous, nous a appris de douter de tout. Donc, on doit douter. Ok, elle paraît dormir, mais est-ce qu'elle dort vraiment? Est-ce qu'elle n'a pas fait un AVC? Est-ce qu'elle n'est pas empoisonnée au curare? Est-ce que le fuseau n'était pas plein de poison? Voilà, donc on peut se poser plein de questions. Et en fait, si vous voulez, ce conte est merveilleux, même pour moi, neurologue, parce que ça me permet de développer ce qu'est la méthode neurologique, ce qu'est la méthode de l'analyse clinique. Comment est-ce qu'on soulève des hypothèses, on les teste, on en doute, et on essaie de cheminer comme ça vers le diagnostic.
Jimmy?
Je suis absorbé, passionné par ce que vous dites. Est-ce qu'elle n'aurait pas, par exemple, je sais pas, la narcolepsie? Est-ce que ça pourrait être une hypothèse?
C'est une hypothèse qui tient bien la route. En fait, si on prend une ado 15 ans qui s'endort brutalement, on tombe sur les hypersomnies de l'adolescent. Alors effectivement, vous avez raison Mélanie, c'est fréquent, les ados qui dorment.
Ils font la grasse mat, mais ils ne dorment pas pendant un siècle.
Ils ne dorment pas pendant un siècle. Par contre, il y a authentiquement des hypersomnies vraiment réelles qui constituent des troubles de la santé dans la mesure où ça a un impact majeur sur le quotidien de ces ados, qui sont notamment la narcolepsie. Alors narcolepsie en plus, alors là c'est vraiment tout trouvé parce que c'est l'endormissement brutal, c'est les endormissements à l'occasion d'émotions, de douleurs, etc. Donc ça ressemble beaucoup.
Ça pourrait être ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui existe pour les adolescents. Il y a un syndrome qui porte d'ailleurs son nom à cette princesse.
C'est le syndrome de Klein-Levin qui touche les adolescents de manière spécifique et qui aux États-Unis s'appelle le Sleeping Beauty Syndrome.
Ah, le syndrome de la Belle au bois dormant.
Exactement. Et qui concerne donc des adolescents qui vont présenter des phases de sommeil, des périodes de sommeil très prolongées, alors plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, de manière inexplicable et récurrente, ça se répète.
C'est plutôt ça, non? Alors, ce qu'elle a, la Belle au bois dormant, non?
Le problème, c'est qu'ils ont... D'abord, ils ne s'endorment pas brutalement comme ça. Ils ont vraiment une somnolence excessive, très importante du sommeil, mais ils n'ont pas le côté endormissement brutal de la narcolepsie, par exemple. Et puis, ils ont quand même des petites phases d'éveil. Même s'ils dorment 16 heures, 20 heures par jour, ils ont des petites phases d'éveil. Et pendant ces phases d'éveil...
20 heures par jour, ils dorment, ces gens?
Ils vont avoir un comportement très particulier, soit hyperphagique, c'est-à-dire qu'ils vont manger.
Oui, parce qu'ils dorment tout le reste du temps, donc il faut bien se nourrir à un moment donné, c'est ça?
Oui, ça paraît quand même. Au-delà des besoins nutritionnels, disons, on va dire. C'est vraiment un comportement un peu boulimique ou hypersexuel aussi. Ils ont une hypersexualité dans les petits moments d'éveil qu'ils ont.
Il n'y a pas de sexualité dans la Belle au bois dormant, enfin je ne m'en souviens pas en tout cas.
Jimmy? Non, pas dans la version qu'on avait regardée. Mais justement, est-ce que ces cas cliniques, là, est-ce que vous pensez que c'est des cas qui ont existé et qui ont été transposés dans des contes ou c'est finalement l'imaginaire, et puis nous, on a cherché à faire des diagnostics, et puis on tombe sur le syndrome de la Belle au bois dormant.
Les deux. C'est-à-dire que notre imaginaire est taillé aussi pour expliquer le réel. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant quelque chose qu'on ne comprend pas, eh bien on fait fonctionner notre imaginaire pour nous créer une théorie de ce qu'on ne comprend pas. Et ça, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas existé aussi 100 ans, 1000 ans en arrière, parce que les contes dont on parle...
Perrault, il a pu être inspiré de choses comme ça, c'est possible.
Alors Perrault, lui, il a fait partie de ceux qui ont collecté et fixé par écrit les contes. Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit, le conte. Il l'a récupéré d'un continent de contes populaires qui existait à l'époque et dont on peut faire remonter la genèse à des milliers d'années auparavant.
Encore plus
loin.
Donc,
en gros, il s'est passé des choses qui sortaient de l'ordinaire, peut-être neurologiques.
Peut-être qu'il y a 1000 ans, il y avait des enfants, comme ça, des ados qui avaient le Klein-Levin, mais qui ne savaient pas ce syndrome de la Belle au bois dormant.
Exactement, ou des narcolepsies. Et que ça, le récit s'en saisit. Et il va avoir une fortune, c'est-à-dire il va être transmis, parce que c'est une transmission orale. C'est avant qu'on les fixe, les Grimm, Perrault, etc., c'était oral. La fortune est notamment conditionnée par la possibilité qu'ils ont d'expliquer ce qui se passe en vrai.
Et justement, dans la suite du conte, à un moment, tout le royaume s'endort d'un coup et vous dites que c'est vraiment arrivé, cette histoire en réalité.
Oui, alors, Parce qu'en fait, à cette époque-là, au XVIIe siècle, au moment où les premiers folkloristes, Perrault, un peu plus tard, les frères Grimm, envoient leurs collecteurs, ils avaient des armées de gens qui allaient dans les campagnes pour récupérer ces histoires, au moment où ils les fixent, il y a eu des épidémies d'encéphalite léthargique. Encéphalite léthargique, ça veut dire inflammation du cerveau qui entraîne le sommeil. Mais comme c'est épidémique, c'est pas du coronavirus, c'est autre chose. Hein. Les gens se mettent à dormir massivement.
Dans un village qui dort.
Dans un village.
C'est incroyable.
Tout le monde dort. Et on est fin du XVIIe siècle. Plusieurs épidémies au Danemark, en Angleterre. Deux villages entiers qui sont mis dans le sommeil à cause de cette encéphalite léthargique.
Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple donc, de la Belle au Bois dormant?
Avec le
Le peuple autour de la Belle au Bois dormant. Les villages autour, tout le monde.
C'est tout le
tout château d'or.
Tout le monde dort.
C'est ça, tout le monde dort.
Exactement.
Ils auront donc une encéphalite virale générale.
Voilà.
C'est ça. Docteur Vercueil, on va continuer cette discussion passionnante. Bien sûr, on reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons passer à d'autres personnages fantastiques. On va parler zombies, des nains aussi dans Blanche-Neige et puis d'autres personnages de Disney d'ailleurs. Quels sont les troubles médicaux qui ont pu inspirer les elfes aussi par exemple? Que se passe-t-il dans la tête de certains personnages d'Harry Potter? Un sacré programme donc, dis donc. Dans ce rendez-vous aujourd'hui, on a décidé de faire vraiment rêver. Hein. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Laurent Vercueil. Il est neurologue au CHU de Grenoble-Alpes et chercheur à l'INSERM. Il est également l'auteur de « La Belle au bois dort-elle vraiment ?» chez Humaine Science. C'est pour ça que vous invitez aujourd'hui, docteur Vercueil. Les problèmes neurologiques des personnages fantastiques, on a déjà parlé un petit peu de « La Belle au bois dormant » juste avant, mais ils se distinguent vraiment par le comportement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Si on prend les zombies par exemple, ça c'est un fantastique, je ne sais pas, mais c'est des êtres imaginaires. Ils sont comment les zombies?
En fait, voilà, c'est ça. Alors, lorsqu'on approche cliniquement le zombie, on le résume un petit peu à ses caractéristiques.
C'est dingue, Jimmy, on dirait que lui, il l'a vu vraiment, le zombie.
Oui, c'est clair, vous le vendez très bien.
Exactement, j'en ai disséqué plein. on le résume en fait à ses caractéristiques les plus générales. C'est-à-dire, il a une façon de marcher qui est très particulière, hein, les jambes très écartées, un peu saccadées. Et puis, à l'intérieur, il semble vide. Donc, on a l'impression qu'il ne va pas avoir de mémoire, il n'a pas de conscience de lui-même. Il a pas, donc, on se dit, il y a un problème d'équilibre et de marche. Ça, dans le cerveau, c'est le cervelet. Et souvent, un problème de mémoire, ça, c'est l'hippocampe. Hein, les structures qui créent du souvenir, c'est l'hippocampe. Donc, il doit avoir du mal à faire fonctionner ses hippocampes et du mal à faire fonctionner son cervelet qui lui permet d'avoir un bon équilibre, d'être stable, de pouvoir marcher sur une ligne, par exemple, en funambule.
Non, mais attendez, là, vous êtes gentil, on parle de zombies. Donc, médicalement, là, vous êtes en train de nous expliquer quelque chose à propos des zombies, c'est-à-dire qu'ils pourraient exister?
Jimmy, il y a peur, attention, docteur. Rassurez-nous, il n'y en a pas de zombies.
Alors, moi, j'en ai vu beaucoup au cinéma, par exemple.
C'est ça.
J'en ai croisé.
Mais pas dans votre hôpital.
Sur les écrans. Et en fait, qu'est-ce qui peut donner comme ça un tel mauvais fonctionnement, à la fois du cervelet, l'organe de l'équilibre, et des hippocampes? Eh bien, on sait que ces deux structures dans le cerveau partagent une même propriété, qui est une sensibilité majeure à l'anoxie, c'est-à-dire à la privation d'oxygène. Quand on coupe l'oxygène au cerveau, les deux structures qui meurent le plus vite possible, c'est les hippocampes et le cervelet.
Donc ça
Ce
fait...
qui veut dire que potentiellement, ce dont souffrent les zombies, c'est un défaut d'oxygénation de ces deux structures.
Pas tout
ça veut
mort.
Dire qu'à un moment donné, ils sont passés par un arrêt cardio-respiratoire.
Donc ils sont morts.
Et c'est pas l'histoire des zombies, ça?
Si, c'est ça, c'est exactement ça.
Ils ont cette démarche, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Là, je suis bluffé.
Moi,
là,
je suis incroyable.
Ah, mais non, mais là, c'est l'histoire de la médecine telle que je veux la prendre. Là, je ne vais plus apprendre de la médecine classique, je vais apprendre. Non, mais
l'histoire des zombies.
Mais bah oui, c'est tellement plus classe. Moi, je suis chiant avec mes grippes et mes machins.
C'est ça.
Et vous arrivez. Voilà.
Il y a les nains aussi. Dans votre livre, vous parlez des nains et des géants. Et là, bon, c'est plutôt une histoire hormonale, hein, je crois.
Voilà, c'est ça. Là, je sors un petit peu du domaine neurologique, mais c'est pour bien expliquer pourquoi j'ai cette approche.
Les géants, par exemple.
Par exemple, en gros. Notre cerveau, c'est un gros organe prédicteur. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir devant nous, dans l'entourage, des gens de taille variable. On est habitué à ça. Mais dans des mesures, qui sont des mesures en fait statistiques. C'est-à-dire que les gens qu'on croise, globalement, ils sont entre, mettons, 2 mètres et 1 m 60. Je dis n'importe quoi. Quand ça sort de ça, le cerveau, il aborde un terrain qui est inconnu. Il dit, c'est pas normal d'être aussi grand, ou c'est pas normal d'être si petit. À ce moment-là, il est obligé de générer une théorie. De dire pourquoi est-ce que les gens sont tout petits, pourquoi est-ce que les gens sont très grands. Alors aujourd'hui, on n'a pas besoin de théorie. On sait que c'est des problèmes médicaux, on sait que c'est des problèmes d'hormones de croissance, etc.
Ouais.
On a la médecine. Mais à l'époque, il n'y avait pas de médecine. Ben, on mobilisait le surnaturel, on mobilisait le merveilleux. Et donc, on crée des personnages. Ça crée
des géants terribles qui mangent les enfants. Etc.
Et
alors,
ce qui est intéressant, c'est que cet imaginaire-là, il pouvait être réalimenté ensuite par la réalité lorsque on tombait, à l'époque, je parle il y a 500 ans en arrière, sur par exemple des os fossilisés. D'animaux préhistoriques.
Bien sûr.
Parce que là, c'était la preuve que les géants existaient, puisqu'on trouvait des ossements
De géants.
C'était de géants.
C'est extraordinaire. Jimmy ?
Alors maintenant, on veut l'explication des lutins. Est-ce que les lutins ont existé ?
Vous les aimez bien, les lutins, vous.
Oui,
hein,
ceux qui mettent le bazar la nuit, qui détruisent tout sur leur passage. Et donnez-moi. Là, mais là, oui, j'en peux plus. Là,
les lutins domestiques, hein, ce sont des habitants des campagnes, alors vraiment qui ont traversé les âges. Hein, et encore au XXe siècle, hein, au siècle dernier, beaucoup de folkloristes ramenaient des récits de lutins qui peuplaient les fermes, etc., surtout dans les campagnes, et dont en fait on observait surtout les méfaits, c'est-à-dire. Les renversements de peau, les bruits la nuit.
Le linge qui est sorti de là où il devait être.
Les cheveux emmêlés, etc. C'était les lutins domestiques.
On les voit pas, mais ils ont
la
nuit.
On les voit pas parce qu'ils sont tout petits, donc ils passent à travers les murs, on n'arrive pas à les voir, mais on observe leurs méfaits.
Justement, il y a un lutin, un elfe domestique, même bien connu de ceux qui ont dévoré la saga Harry Potter, le fameux Dobby. Dobby, on écoute son extrait.
Harry Potter, c'est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Dobby. Monsieur Dobby, l'elfe de maison. Oh, c'est très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby!
Arrêtez, Dobby!
Bon, alors c'est Dobby, l'elfe de maison. Bon, Harry Potter, il a la chance de le voir parce qu'il est magicien, hein, mais nous, on les voit pas.
Non, on voit pas, non, bien sûr. En fait, l'elfe Dobby, c'est un petit peu une déclinaison de ce lutin domestique, typiquement, qui est attaché à une demeure et qui va produire des effets dont on ne connaîtra pas la cause puisqu'on ne le voit pas.
On les a inventés pour expliquer notre bazar, quoi, c'est ça?
Alors, c'est un petit peu ça, hein, pour expliquer tout ce qui veut se passer la nuit et qui va faire que le pot de confiture est renversé, il y a des bruits, ça tape, les lutins sont tapageurs, hein, donc il y a du bruit dans la maison, c'est les lutins.
Jimmy ?
Et ceux qui pensent que la nuit, ils ont entendu des bruits en disant que c'était des lutins. Est-ce qu'on peut les croire alors, en fait?
Ah, je pense qu'il faut les croire, bien sûr. Il faut les croire. Mais ils ont eu besoin de générer un personnage pour expliquer ce qu'ils entendaient.
C'est pas parce qu'il y avait le mari qui était somnambule juste et qui foutait la pagaille à côté. C'était alors, pas un lutin.
Exactement, ça peut être un exemple. Un somnambulisme, quelqu'un qui va se déplacer, renverser des objets, se recoucher, avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit et le matin, au réveil, constater les dégâts. Et si c'est pas moi alors, bah, c'est des lutins.
Forcément. Et les elfes aussi, c'est... donc ils ont une... un faciès particulier. Là, c'est, vous l'expliquez par le syndrome de Williams. C'est quoi ça, ouais, les elfes et le syndrome de Williams?
Alors, les elfes, c'est des personnages alors, qui ont connu, notamment avec Tolkien, une version extrêmement, de plus en plus loin de l'origine. Hein. Mmh. Mais au départ, c'est plutôt la mythologie nordique. C'est des elfes de petite taille, avec quand même des qualifications qui sont bien, bien présentes, qui sont très sociables. Très porté vers la musique, avec des traits physiques qui, à une époque, étaient plutôt grande bouche, un nez un petit peu retroussé, et qui sont des caractéristiques qui ont été identifiées comme étant celles du syndrome de Williams. Le syndrome de Williams, donc, c'est un syndrome génétique hein, qui entraîne des troubles, un handicap hein, cognitif, et des traits particuliers, et notamment une très, très importante empathie. Ah. C'est-à-dire que ce sont des enfants dont tous les gens qui s'occupent d'eux disent que le matin, lorsqu'ils vont les voir, ils savent très bien dans quel état on se trouve. Tiens, aujourd'hui, t'es pas très bien, tu es pas très...
Ah oui.
Ils ont une très
comme
grande empathie.
Elfes, quoi, c'est ça.
Et un goût pour la musique. Il y a sur Internet, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a une jeune femme atteinte d'un syndrome de Williams qui chante, qui fait du chant lyrique à un très très haut niveau et qui est très identifiée comme elle.
Et il y a même une ressemblance un peu physique avec ce syndrome et les elfes, hein, c'est ça?
Oui, ouais, tout à fait.
C'est-à-dire
alors, c'est pas très radiophonique, ouais, mais effectivement, les syndromes de Williams ont un faciès
qui
est assez proche de celui qui est décrit dans les elfes.
Jimmy ?
Bon, rassurez-nous, est-ce qu'il y a quand même des personnages qui n'ont pas de maladie ? Bon, même si c'est pas très grave d'être malade, mais est-ce qu'il y en a quand même qui vont bien ? Je sais pas, le petit pousset, ou le petit chaperon rouge ?
Bien sûr,
elle va bien, le petit chaperon rouge. À la part qu'elle se fait manger par le loup, mais bon, elle s'en sort à la fin.
Non, je veux surtout pas être accusé de désenchanter ou de vouloir tout neurologiser ou tout nous médicaliser. C'est clair, hein. Moi, je pioche un petit peu avec mon œil de neurologue les personnages où je me dis, tiens, ça c'est un trait de comportement.
Chaperon rouge, elle a rien. Hein.
Non, elle va très bien, la chaperon rouge, je confirme.
Par contre, dans le chaperon rouge, il y a un autre personnage qui lui va peut-être moins bien. En tout cas, il est très méchant, il nous fait très très peur. C'est le grand méchant loup. Le grand méchant loup, d'ailleurs, des loups, en fait, il y en a partout, dans plein de contes, et c'est toujours l'animal qui nous fait peur, l'animal méchant. Pourtant, des animaux sauvages, il y en a plein. Pourquoi on a choisi le loup dans ces contes pour comme représentant du mal et de personnages méchants?
Je pense qu'il a mobilisé une mythologie très très riche. Hein. Le loup, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été utilisé. On avait sûrement aussi besoin, en tant que parents, d'un personnage un peu effrayant pour avoir un impact émotionnel sur les enfants. Donc ça marche, le loup, ça marchait mieux que Louis Titi, par exemple.
Effectivement, là, ça marque un point.
C'est clair. Mais alors, il y a loup et loup, par contre. Le loup, bon, l'animal qui fait peur, mais il y a aussi le loup-garou. Alors là, c'est un personnage qui fait encore plus peur. C'est une espèce de métamorphose entre l'homme et le loup. Comment il est arrivé? Comment on peut expliquer, peut-être médicalement, entre guillemets, la création de ce personnage?
Ben, en fait, on se replonge à nouveau 500 ans en arrière. On se dit, OK, ce sont des gens qui n'interviennent que la nuit, qui sont clairement stigmatisés, qui sont en dehors de la population du village, par exemple. Et lorsqu'on les surprend la nuit, ben, ils ont une apparence qui est effrayante et ils ont un comportement qui est agressif.
Alors, c'est des exclus de la société.
Ben voilà, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont exclus, peut-être à cause de leur apparence, par exemple, ils sont très hirsutes, ils ont une chevelure très abondante avec des poils qui poussent partout, comme on peut le voir dans certaines affections dermatologiques, ils sont rejetés. Du coup, pour survivre, ben, ils vont aller vivre aux marges des villages, ne se présenter que nuitamment, pour faire des petits chapardages, leur permettre de survivre, prendre un peu de nourriture, voler une poule pour vivre. Et s'ils sont surpris, bah ils se défendent, c'est normal. Donc ils vont être éventuellement agressifs parce qu'ils veulent sauver leur peau.
Le loup-garou, en tout cas, si je termine sur lui, vous disiez qu'il avait peut-être été inspiré de personnages exclus de la société, de gens malades qui vivaient à l'extérieur des villages, de gens qui avaient des problèmes de peau, dermatologiques. En tout cas, il sévissait la nuit. La nuit, la tombée du jour, ça peut nous angoisser particulièrement quand on souffre de démence, par exemple, d'Alzheimer. Ça aussi, ça peut être des cas qui ont inspiré des personnages nocturnes comme ça, parce que quand on a une maladie neurologique, la nuit, c'est plus difficile.
Oui, en fait, il y a un phénomène physiologique, hein, neurophysiologique, qui fait qu'à la tombée de la nuit, et c'est des collègues neuroscientifiques qui ont montré ça il n'y a pas très longtemps, hein, on a dans le cerveau une structure qui est une région profonde du cerveau qui notamment va un petit peu contrôler ce système d'attaque, de rage, d'agression, et qui est sous la dépendance d'une autre région qui, elle, est très très sensible à la variation de la journée. C'est-à-dire que lorsque la nuit va tomber, il va y avoir une désinhibition de ce contrôleur de l'agression, on va dire. Mmh. Alors, peut-être pour des raisons évolutives, c'est-à-dire qu'il vaut mieux, limite, être un peu sur ses gardes et être un peu prêt à se défendre ou attaquer lorsque la nuit descend, où on est plus vulnérable aux attaques. Mais ça a des conséquences cliniques, notamment lorsque le contrôle du comportement diminue, comme c'est le cas chez les sujets déments, Alzheimer, etc. Et dans les EHPAD, dans les structures spécialisées, on sait très bien qu'à la tombée du jour, l'agitation augmente, les gens ont des comportements qui commencent à être plus difficiles à gérer, notamment à cause de ce mécanisme. Et le parallèle avec le loup-garou, c'est-à-dire le fait que l'agressivité va augmenter à la tombée du jour, est assez fascinante.
Bon docteur, on va revenir à des personnages plus sympas. Vous les aurez reconnus, c'était donc la chanson des sept nains dans Blanche-Neige. On s'en rappelle tous, je vois Jimmy qui sourit, envie de faire hé-ho, hé-ho. On va parler d'un nain en particulier, c'est le personnage de Simplet. Il y a quoi comme particularité neurologique, je ne sais pas?
Alors c'est très étonnant comme histoire. Simplet, il est présenté par prof, le chef des nains, là, à Blanche-Neige, en disant, voilà Simplet, ou dopé en anglais. Il ne parle pas. Il ne parle pas, c'est ce que dit le prof. Hein. Donc, et de fait, dans le dessin animé, il ne parle pas. Mais il comprend très bien ce qu'on lui dit. Et il présente un autre trait du comportement, qui est le fait qu'il est toujours joyeux. Il a une grande bouche avec une langue qui sort et il rit tout le temps. Et enfin, il est extrêmement maladroit. Il tombe, il se prend les pieds, il renverse tout, etc. Or, il se trouve que toutes ces caractéristiques, à la fois comportementales et physiques, c'est-à-dire ne pas avoir de langage, mais comprendre le langage qui est exprimé auprès de lui, comprendre des consignes, etc., avoir une tendance à rire de tout, de rien, avoir une grande maladresse, ce qu'on appelle en neurologie une ataxie, c'est-à-dire une difficulté à s'équilibrer, c'est les caractéristiques d'un syndrome qui s'appelle le syndrome d'Engelmann. Or, le syndrome d'Engelmann ne sera décrit que 28 ans après le dessin animé de Walt Disney.
Vous comprenez tout, Jimmy, là. C'est incroyable.
Et ça veut dire que Disney, peut-être, avait un enfant qui aurait cette maladie, mais qu'on ne connaissait pas et on n'avait pas de nom.
C'est vraiment l'hypothèse qu'on a, c'est que peut-être que dans l'entourage de Disney, ou éventuellement d'un des dessinateurs, hein, des gens qui ont contribué, il y avait un enfant qui avait un syndrome d'Engelmann, parce que le syndrome d'Engelmann n'est pas né avec Engelmann. Bien sûr, il existait avant. Engelmann, c'est juste le médecin qui a décrit ce syndrome dans l'entourage et qui a servi un petit peu de modèle, parce que la coïncidence est tellement frappante qu'on se demande s'il y avait une autre possibilité.
Bon, Jimmy, on a terminé, je suis désolée. Ah, vous en vouliez plein d'autres,
non,
hein,
mais
de personnages.
Non, mais votre livre, il faut l'acheter, il faut le lire, il faut le proposer aussi aux enfants, parce que ça éveille la curiosité. Donc, vraiment, c'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou vraiment de vous avoir, on est vraiment ravis.
Merci beaucoup, docteur Vercaille, d'être venu sur notre plateau nous décrypter donc, d'un point de vue médical ce monde merveilleux des contes de fées. Je rappelle bien sûr le titre de votre livre, La Belle au Bois dort-elle vraiment, neurophysiologie des contes de fées, aux éditions Humaine Science. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on va faire un point sur le microbiote, notre flore intestinale. On va vous parler de travaux scientifiques assez fascinants. Des chercheurs du MIT vont récupérer des échantillons de microbiote partout dans le monde, chez des peuples encore épargnés par l'industrialisation. On va partir au Sénégal, vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de microbiote. Savez-vous ce qu'est vraiment la flore intestinale? À quoi elle contribue dans votre organisme? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est pas des boutons au sein de l'estomac et qui provoquent des inflammations.
C'est les bactéries du corps, mais qui sont bonnes pour notre santé. Donc ça peut être le microbiote intestinal, c'est les bactéries qui vont nous aider à digérer certains aliments.
Bah déjà, je pense que pour rebooster son microbiote, il faut déjà avoir une alimentation saine et équilibrée qui déjà te protège un peu naturellement de tout ce que tu peux attraper, des rhumes, de la grippe et autres.
Tout ce qui est fibres, ouais, tout ce qui est légumes, tout ça. Je pense qu'il y a des graines aussi.
On parle aussi souvent maintenant de la greffe fécale. Pour ça
Non, je ne savais pas que ça existait. Là, vous me l'apprenez.
La greffe fécale.
Moi, je n'y crois pas du tout, mais c'est comme les probiotiques. On fait ce qu'on dit de la greffe fécale, c'est qu'en fait, on instaure le microbiote qui se retrouve dans les fécales de quelqu'un qui vit avec nous et qui, du coup, doit normalement avoir un microbiote similaire à celui qu'on avait avant d'être malade et pour le réinstaurer et pour ne pas avoir de problème de santé après.
Alors, pour parler du microbiote, on a convié sur le plateau Cécile Coumeau. Cécile, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes journaliste santé. Ces bactéries intestinales, vous les avez vues de près. Vous êtes même partie au Sénégal avec des chercheurs qui veulent préserver ces bactéries. Alors, pourquoi une telle expédition?
Eh bien, parce que ces bactéries intestinales, qui forment donc ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, sont menacées de disparition. À force de manger de la nourriture industrialisée, d'avaler des antibiotiques et puis de faire un peu la chasse à tous les microbes qui nous entourent, ces bactéries qui habitent donc nos intestins disparaissent. Et ça nous rend plus vulnérables. Quand notre microbiote est déséquilibré, eh bien finalement, on risque de développer des maladies.
Et alors, quelles maladies justement, Cécile?
Alors, les principales, c'est des maladies chroniques de l'intestin, mais aussi l'obésité, le diabète, les allergies. On découvre tous les jours des liens finalement entre le microbiote intestinal et notre santé. C'est une vraie révolution scientifique qui est en train de se passer devant nos yeux actuellement.
Jimmy ?
Mais ces chercheurs, que vous avez suivis, qui sont allés jusqu'au fin fond du Sénégal, pourquoi aller aussi loin pour recueillir des bactéries qu'on a tous sur ce plateau, là, Mélanie a des
bactéries dans son digestif,
mais pourquoi on est parti aussi loin?
Mais en fait, comme ces bactéries elles sont menacées par notre mode de vie industriel, ces deux chercheurs, qui sont français d'ailleurs, il faut le dire, Mathilde Poyer et Mathieu Groussin, ils ont eu l'idée d'aller partout dans le monde pour rencontrer des populations qui sont très isolées. Le but, c'est de recueillir des sels et d'en extraire les bactéries, de rapporter le tout à Boston et de tout mettre dans une biobanque. Alors moi, je les ai suivis chez les Bédik, c'est un peuple du Sénégal, mais ils sont déjà allés dans 11 pays, partout sur la planète. Et globalement, ça se confirme, nous n'avons pas tous le même microbiote, comme nous l'explique Mathilde.
C'est simple, à chaque fois qu'on essaye de cultiver les bactéries à partir d'un échantillon de microbiome, on parle en dizaines d'espèces. C'est un nombre d'espèces inconnues, c'est une espèce d'inconnu général. Honnêtement, on s'y attendait. À ce niveau-là, non, quand même pas. C'est assez fantastique. C'est même pas juste des espèces, c'est parfois même à l'échelle d'un genre complet nouveau.
Alors, c'est très intéressant, hein, Cécile. C'est un musée de bactéries, en quelque sorte. Et ça va servir à quoi, concrètement, Cécile?
Alors, cette biobanque, qui s'appelle le Global Microbiome Conservancy, elle va permettre aux chercheurs du monde entier, finalement, de mener des recherches sur ces bactéries qui sont en voie de disparition, pour mieux comprendre leur rôle et surtout donc le lien avec notre santé. Et le but ultime, c'est bien sûr de pouvoir mettre au point des médicaments, peut-être des cocktails de bactéries, contre ces maladies du monde moderne qui nous touchent, nous occidentaux, mais qui vont bientôt toucher ces peuples qui sont isolés, parce que vous le savez, hein, l'industrialisation, elle gagne du terrain partout dans le monde.
Merci beaucoup Cécile pour toutes ces précisions. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette expédition scientifique passionnante que vous avez suivie, pour Europe 1 au Sénégal, je vous invite à aller écouter l'intégralité de votre reportage qui a été diffusé dimanche dernier dans l'émission Les Carnets du Monde présentée par Sophie Larmoyer tous les dimanches, donc de 13h à 14h. Vous pouvez retrouver le podcast évidemment. Merci beaucoup Cécile.
Merci Mélanie.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de ces pensées parasites qui peuvent parfois nous perturber durant les rapports sexuels. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans le studio. C'est Catherine Blanc, donc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Vous la connaissez tous, qui nous écoutez aujourd'hui, évidemment. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on répond à la question de Liliane. Je vous lis sa question. Donc, alors que je suis en train de faire l'amour, il m'arrive souvent d'être perturbée par des pensées parasites qui me bloquent complètement, tel le regard sur moi d'un parent. Que se passe-t-il? Comment y échapper? Alors Catherine, ça peut être quoi par exemple ces pensées parasites que cite Liliane?
Alors je ne sais pas celle de Liliane, mais il arrive souvent effectivement que des patients témoignent de la grand-mère qui rentre dans la chambre et regarde, ou le père qui dirait que ce n'est pas bien ce qui se passe.
Elles imaginent ça, ouais.
Absolument, c'est-à-dire tout d'un coup le cerveau se met en mode d'observation de des interdits en quelque sorte, imagé par la présence d'un parent, que le parent ait été d'ailleurs celui qui a posé des interdits ou qu'il ait soit imaginé ayant posé des interdits.
Ça arrive à beaucoup de personnes. Ça, c'est pas un truc plutôt féminin de un peu penser à autre chose de temps en temps, ou est-ce que...
Alors c'est encore différent.
Ça touche aussi les hommes.
Alors c'est différent. Il y a effectivement penser à autre chose, qui est une façon d'être ou rattrapé par ses urgences de la vie du quotidien, par exemple, comme faire sa liste de courses.
Mais là, c'est pas ça. C'est des pensées un
là,
peu...
Là, c'est plutôt... Ouais. C'est, en fait, quand nous faisons l'amour, inévitablement, nous convoquons une somme de fantasmes de façon tout à fait inconsciente, hein, puisque notre sexualité, c'est des désirs de relations de pouvoir, des excitations, quand je dis relations de pouvoir dominant ou dominé, des excitations liées à ces positions, et évidemment que cela rappelle toute notre construction dans nos liens avec nos parents, dans le regard que l'on a posé sur la relation du père et de la mère, ou de leur regard sur nous, ou de notre regard sur eux, et puis plus largement de la famille, les oncles, tantes, grands-parents, selon évidemment la proximité de ces personnages dans notre histoire. Donc, quand nous faisons l'amour, comme ce sont nos fantasmes qui sont à l'œuvre, de façon tout à fait inconsciente, il arrive que certains de ces fantasmes remontent au niveau de la conscience et parfois les interdits liés à ces fantasmes et donc les personnages en question.
Jimmy ?
Mais on peut avoir ces pensées parasites même si on n'a pas une sexualité, on va dire, déviante, c'est-à-dire dans le cadre de sexe, on va dire, conventionnel, avec son conjoint ou sa conjointe légitime, on peut malgré tout être parasité par la pensée d'un parent.
Oui, absolument, parce que ce n'est pas parce que je suis adulte et que je suis en train de faire l'amour et donc, a priori, tout à fait légitime à être dans cette position, que je ne me vis pas du point de vue de l'enfant qui a des pensées sexuelles. Et du coup, c'est l'enfant qui convoque la relation aux parents. Donc, je pense par exemple à une patiente qui faisait l'amour le plus simplement du monde et le plus classiquement du monde, qui tout d'un coup voyait systématiquement la porte s'ouvrir, elle imaginait la porte s'ouvrir un parent rentrer en disant « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Si elle était adolescente, prise en flagrant délit de faire l'amour pour la première fois. Et c'était une femme très inquiète, et c'est d'ailleurs pour ça que sa sexualité était vraiment très très classique, parce qu'elle avait peur de toute excentricité qui aurait pu être la révélation de son excitation de femme, de son désir de femme, et il fallait la réduire le plus simplement du monde pour essayer d'y accéder sans justement que la porte ne s'ouvre.
Et ça, c'est des traumatismes ou, je ne sais pas, des blocages qui remontent à l'enfance quand même.
Absolument.
Hein, quand on arrive dans des situations aussi sérieuses que celles que vous décrivez.
Oui, ce sont souvent parce que les parents ont posé beaucoup de jugements. Par exemple, là, en l'occurrence, c'était des jugements sur la féminité. Mais comment tu t'habilles? Mais tu en dirais une pute, etc. Donc, ces phrases posées par des parents ou des grands-parents qui, du coup, font la terreur de la jeune femme, en l'occurrence.
Qui reste bloquée avec ça.
Absolument. Hein, ouais. Et qui a peur de révéler tout désir ou toute excitation.
Jimmy ?
Vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que ça peut être l'équivalent d'un trouble anxieux finalement qui se manifeste au moment du rapport, mais qui va au-delà du rapport sexuel ?
Oui, bien sûr. Ce n'est pas la sexualité, enfin le rapport, ce n'est pas lié à l'homme, à sa façon qu'il aurait de faire l'amour, ce n'est pas lié à ce qui se joue entre l'un et l'autre. C'est vraiment une histoire très personnelle, une anxiété qui remonte à la surface à l'occasion du sujet qui est sexuel. Mais ça peut se jouer aussi dans la façon de s'habiller, dans la façon de se mouvoir dans la rue ou d'être en situation, d'être vu, observé, etc. Mais dans la sexualité, a fortiori, puisque là, c'est tout le genre remis en question par le cadre familial qui se rejoue à ce moment-là.
Pour terminer, elle nous demande comment se sortir de tout ça. J'imagine que là, il faut lui conseiller de consulter quand même, non ?
Oui, c'est de comprendre quelles sont les origines de ces interdits qu'elle réactualise, et faisant jouer d'ailleurs à des personnages qui sont peut-être pas aussi tyranniques qu'elle a bien voulu le penser, mais qu'elle a intégré comme ça pour s'en libérer, bien évidemment.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils, comme toujours précieux. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h